France Inter, le 18-20.
Franchement, est-ce que tout ça est bien sérieux? À Calais, ce samedi, un festival vegan devait se tenir, doit toujours se tenir, mais ça a été toute une histoire avec la mairie. L'affaire s'est terminée devant les tribunaux parce que on a craint un désordre à l'ordre public entre les vegans et les chasseurs. Ces dernières semaines, des boucheries ont été attaquées, souvent une quinzaine en tout durant l'été, dans le Nord d'ailleurs principalement, mais pas seulement. On en compte sur une année, c'est un chiffre qui a été fourni par la Confédération des Bouchers, je vous le dis, mais enfin le chiffre monte autour de 100. C'est dire qu'il y a une sorte de phénomène au point que les bouchers d'ailleurs ont demandé une sorte de protection, en tout cas ont été reçus. Place Beauvau, franchement, est-ce qu'on n'est pas en train de marcher sur la tête? Est-ce que les tenants de la protection animale sont en train de se radicaliser, fort d'une prise de conscience dans la population que les conditions de vie et de mort des animaux de consommation pourraient être grandement améliorées? D'ailleurs, notre regard sur les abattoirs, sur les poulaillers géants, tout cela effectivement a changé, peut-être grâce à ces associations. Mais est-ce que le mode opératoire de lutte et de militantisme est en train de changer? Est-ce que le climat se tend avec ce qu'on appelle les carnivores? Je vais mettre des guillemets parce que déjà dans les courriers que vous nous envoyez, je suis en train de me faire engueuler au sujet de ce terme-là. On en parlera sûrement ensemble avec les carnivores, donc avec les chasseurs aussi, au point que côté amateur de viande aussi, on se crisme. Ou est-ce que c'est le débat finalement qui se tend? On ne parle plus des conditions d'abattage, on est bien au-delà. C'est de spécisme et d'antispécisme dont il est question. Il se peut qu'on soit en train de vivre une sorte d'époque charnière, la question du carnivorisme dépassant très largement nos assiettes et nous emmenant vers la légitimité même de manger des animaux. Tout cela, on en parle ce soir et on essaye d'en parler tranquillement, s'il vous plaît. Ça se passe au 01 45 24 7000 et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Allez, Nicolas, c'est vous le premier. Vous êtes le bienvenu dans le téléphone sonne. On vous écoute. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Ma question, tout d'abord, je précisais que du coup, je mange de la viande et des produits animaux. Et j'aurais une question pour prendre un peu de recul. Est-ce qu'il est possible que les carnivores, du coup, entre guillemets, pour reprendre votre formule, et les véganes puissent s'entendre pour résoudre vraiment les défis alimentaires du futur, c'est-à-dire nourrir 9 milliards de personnes, parce qu'il y a des solutions à aller chercher un peu des deux côtés, et de l'autre côté, la paupérisation un peu de certaines campagnes, ou du coup l'élevage ou l'industrie du lait fait vivre ces endroits-là. Voilà la question, c'est de prendre un peu plus de recul pour répondre à ces vrais défis qui nous tomberont dessus, qu'on soit vegan ou carnivore.
Nicolas, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Et Nicolas qui d'emblée veut réconcilier tout le monde, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous répondre, pour discuter ensemble ce soir jusqu'à 20h. Florence Burgaïla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes directrice de recherche à l'Institut National sur la Recherche Agronomique et vous avez écrit « L'humanité carnivore » aux éditions du Seuil. Bonsoir Étienne Bimbenet. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Vous avez écrit « Le complexe des trois singes », un essai sur l'animalité humaine et c'est publié au Seuil l'année dernière en 2017. Pour rebondir sur ce que disait Nicolas, Florence Burga, on arrive vite à la conclusion finalement, mais il a raison. Il y a sûrement du vrai dans ce que dit chacun, en fait, dans ce que disent ceux qui mangent toujours de la viande, ceux qui l'élèvent, ceux qui l'abattent aussi, et ceux qui veulent qu'on arrête intégralement.
Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans l'intervention donc de Nicolas, c'est de penser qu'il y a un morceau de chemin à faire de part et d'autre. Et probablement, j'imagine que sa démarche irait vers une consommation de viande moins importante, ce qui est une chose qu'on peut envisager puisqu'il est difficile d'imaginer du jour au lendemain de repenser complètement ce système. Mmh. Donc je pense que les carnivores, on va les appeler comme ça avec les guillemets, qui souhaitent améliorer les conditions d'élevage et d'abattage doivent être conscients que il faudrait une consommation de produits animaux qui baisse considérablement pour pouvoir apporter un tout petit peu plus d'attention aux animaux, tout en étant conscient du fait que les animaux qui sont destinés à être engraissés et abattus ne pourront jamais, du fait même de cet usage, faire l'objet véritablement de soins attentifs. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on peut penser raisonnablement.
Étienne Bimbenet, est-ce qu'on n'est pas en train d'y venir, cela dit, alors peut-être très lentement et à l'échelle du monde, effectivement ça met un temps considérable, mais à une sorte de décroissance dans notre consommation de viande, à un regard qui est complètement différent qu'il y a encore même 5 ou 10 ans en fait au final?
Ben oui, les sensibilités évoluent grandement et on le voit tous les jours, mais je pense qu'il y a à cela différentes raisons. C'est vrai que la crise à la vache folle à la fin des années 90, ça a été un marqueur important. C'est-à-dire que la consommation de viande ne cessait d'augmenter en France depuis, le 19e siècle. Et ça commence à décroître à la fin des années 90, en tout cas pour le bœuf. Et ça rejoint un certain nombre de raisons ou de motivations profondes que les gens auraient de ne pas ou de moins manger de viande.
Mais à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que c'était pas tant la souffrance animale, c'était qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on est en train de nourrir les bêtes avec des farines qui étaient des farines animales. On s'est dit qu'on faisait n'importe quoi en fait.
Oui, on a une
vision
un peu
barbare. C'était pas encore la souffrance animale, exactement.
Absolument, de cannibalisme animal.
Exactement.
Les farines animales ont fait beaucoup de mal à l'industrie bovine, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les gens se sont dit, on fait vraiment n'importe quoi avec cette industrie animale. Et je pense que la prise de conscience, elle est profonde. Et les motivations, elles sont quand même de trois ordres. Et si on prend chacune de ces motivations séparément, on s'aperçoit qu'on a de très sérieuses raisons de manger moins de viande. La première, c'est que c'est une raison morale qu'invoquent les antispécistes et qui fait que, en effet, on commet le pire en élevage industriel et intensif chaque jour. Et là, le grand avantage, si je puis dire, des combats antispécistes, c'est précisément de nous mettre en face de cela. La seconde motivation profonde, elle est écologique, on le sait, c'est-à-dire que le coût écologique pour la consommation, par exemple, d'un kilo de viande, de bœuf, par exemple, c'est colossal. C'est de l'ordre de 14 000 litres d'eau. Alors, si on enlève l'eau de plus, ça fait 7 000 litres d'eau qu'on est obligé d'ingurgiter dans la production d'un kilo de viande. Donc, c'est un problème écologique énorme et, en effet, qui devient un problème planétaire dès lors que, en effet, qu'à l'horizon 2050, quand on sera à peu près 10 milliards d'humains, on ne pourra pas consommer autant de viande. Ce ne sera pas possible. Et puis, la troisième motivation aussi, moindre d'une certaine manière, elle est sanitaire. C'est-à-dire que manger beaucoup de viande, on sait que ce n'est pas très bon, que ça peut produire des maladies cardiovasculaires, etc. Donc, ça fait trois raisons quand même sérieuses que les gens sont en train de commencer à prendre en compte et qui font que les mentalités, les sensibilités changent.
Mais est-ce que, en chiffres, ce changement de mentalité se retrouve? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, oui, on abat moins d'animaux et on peut même les abattre, d'ailleurs, dans des conditions différentes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et surtout à terme, les gens en mangeront moins, donc on peut commencer même à réfléchir différemment. Est-ce que ça sent déjà dans les chiffres, ça, ou pas encore?
Je vous le disais, ça se sent sur la consommation de bœuf qui commence à décroître. Curieusement, la consommation de volaille, au contraire, continue à augmenter, sans doute parce que la volaille est une viande moins sanguine, moins barbare, en quelque sorte, plus neutre, si je puis dire, c'est moins une viande, en quelque sorte, que les autres. Et donc, c'est vrai, et je pense que Florence ne me contredira pas, c'est vrai que les mentalités évoluent, les discours se tendent, mais d'une certaine manière, le phénomène de consommation de viande reste quand même quelque chose d'assez parisien, peut-être européen d'une certaine manière. On sait que les Indiens, les Chinois se mettent à la viande et que nous les avons malheureusement occidentalisés de cette manière-là. C'est bien dommage, mais au niveau mondial, la consommation de viande augmente, mais de manière dramatique.
Mais parce que quand on est un pays de plus en plus développé, l'une des manières de le montrer, Florence Burgas, c'est de manger mieux, donc de manger de la viande, et ça depuis très longtemps.
Oui, effectivement, ce modèle s'est imposé. Mais alors, je voulais revenir un tout petit peu en arrière. Il me semble que dans le mouvement de l'évolution des idées, il y a toujours les idées qui arrivent les premières et les comportements qui changent après. On le voit dans d'autres questions. La façon de penser se modifie, mais avant que nos comportements se modifient aussi, il y a toujours un temps important qui se développe. Alors peut-être on n'a pas de chiffres très précis sur le développement du végétarisme, du véganisme. Et Étienne a raison de souligner qu'au niveau mondial, malheureusement, la consommation de viande, mais bon, elle peut se mettre à décroître à partir du moment où d'autres épizooties vont toucher les élevages, enfin, ce qui inquiète aussi beaucoup les gens.
Et ce qu'on ne va pas souhaiter non plus pour faire descendre, comme vous dites, la consommation. Juste un mot, Monsieur Barbonnet, juste avant qu'on retourne au standard.
Oui, il y a la consommation et puis il y a les usages. On est en train de prendre conscience en France du poids des lobbies. C'est-à-dire que Emmanuel Macron avait fait quelques promesses timides, mais quelques promesses quand même en campagne. Et puis la loi agriculture et alimentation de juin 2017 a été largement écornée sur des points essentiels parce que les lobbies ont fait un travail considérable. Et ça, on en prend conscience aujourd'hui.
Val, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. On vous écoute.
Je vous remercie. Alors, je vais essayer d'être assez brève. Mais pour moi, le sujet de ce soir est très émotionnel parce que je suis une fille de végétarienne qui aujourd'hui mange de la viande. Et j'ai fait un long chemin et j'ai essayé d'y réfléchir. Et je voulais rappeler que si aujourd'hui il y a des véganes radicaux, c'est parce que des gens comme moi, on a été moqués, on a été ostracisés. Nos parents et nous-mêmes, on a créé des filières et des produits qui leur permettent aujourd'hui d'être véganes. Et dans les années 80-90, les choses étaient très différentes. Et donc, de ce point-là, moi j'ai continué à évoluer et je suis devenue jardinière. Et donc je voudrais aussi rappeler que les plantes, c'est vivant. Elles ont un système respiratoire, elles ont un système reproducteur, tout ça. Et donc moi, je comprends pas bien aujourd'hui comment on peut ne pas réfléchir au fait qu'une plante est aussi vivante qu'un animal et que le seul tort de la plante, c'est de pas pouvoir s'exprimer.
Mais attendez, Val, moi j'ai un peu du mal à comprendre parce que donc vos parents sont végans ou végétariens ? Végan, vous m'avez dit, pardon.
Végétariens,
pardon.
Végétariens,
autant pour moi. D'accord.
Ils sont pas végans.
Mais vous, vous mangez de la viande. En revanche, oui. Vous réfléchissez aux végétaux qui sont aussi vivants. J'ai un peu du mal à comprendre. Du coup, comment vous vous arrangez, vous, avec tout ça, en fait ?
Bah, en fait, la chose est que, est dans le mot respect. Mm-hmm. Je mange des végétaux avec respect, je mange des animaux avec respect. Donc, pour moi, c'est pas une question de manger des végétaux ou des animaux. C'est traiter tout, animaux, végétaux, la terre avec respect. Et donc, moi, je mange de la viande qui est produite près de chez moi. Donc, j'essaye de connaître le producteur qui est bio, qui est élevé, abattu dans des conditions correctes, a vécu heureuse. Mm-hmm. Et la même chose pour mes végétaux. Et je pense qu'il y a moyen de manger de la viande comme moi. Bien sûr, j'en mange pas matin, midi et soir, hein, raisonnablement. mais avec beaucoup de respect, alors qu'on peut être végane et manger du quinoa qui vient du Pérou, qui a un bilan carbone et éthique absolument désastreux, parce qu'on a exploité un paysan bolivien. Voilà. On a mis tout ça dans un avion. Enfin,
voilà. Et augmenter l'industrie pétrolière, puisqu'on ne porte pas de cuir, mais du plastique, tout ça est un débat qui paraît toujours un débat sans fin. Il y a une chose qui est intéressante, Florence Burga, dans ce que dit Val, notamment, c'est les véganes autrefois étaient moqués, en fait. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons qui a fait dévier Val de la manière dont elle a été éduquée, vraisemblablement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile dans notre société aujourd'hui d'arriver en disant « moi je suis végane » particulièrement. Enfin, je veux dire, si on regarde les cartes des restaurants et toujours un menu végane quelque part aujourd'hui, c'est plus facile.
Je crois que c'est beaucoup plus facile. Enfin, moi j'en ai, si je peux me permettre de dire ça, j'en ai fait l'expérience, mm-hmm. Puisque je le suis depuis une trentaine d'années. Donc j'ai
et
vu.
Quand
vraiment,
vous allez au resto, ça se passe relativement bien finalement. En fait, on n'a pas besoin de demander des choses particulières et spécifiques.
En tout cas, on sait que ce choix alimentaire mm-hmm. existe. Mm-hmm. Et je crois qu'il ne fait plus l'objet d'opprobre, de moquerie, qui pouvait parfois être vraiment cinglante et vraiment très très déplaisante.
Mais s'il y a une forme de radicalisme dans le combat des véganes, Étienne Binbenet, parce qu'il y a un certain nombre de groupes qui sont plus violents que d'autres, est-ce que cette image qui était en train d'être un peu plus positive, effectivement, parce qu'on est tous plus ou moins responsabilisés, est-ce que cette image ne risque pas de revenir totalement en arrière, en fait ? Est-ce que le risque, il n'est pas là, finalement ?
Bah, c'est ce qu'on se dit depuis cet été, en gros, mm-hmm. depuis les attentats sur les boucheries lilloises et dans le Nord. On se dit, alors on ne dit pas toute violence est mauvaise, parce que c'est faux, il y a des violences qui sont bonnes et qui sont légitimes au plan historique, on le sait, par la résistance, par la révolution. Bon, c'est pas la violence en soi qui est mauvaise, c'est le type de violence qui est là. C'est-à-dire que on peut faire la différence ici avec ce que fait L214 au même moment. Mm-hmm. C'est-à-dire que autant les attentats contre les bouchers, c'est une forme de violence qu'on pourrait dire accusatoire. En gros, on nous dit, vous mangez de la viande, vous êtes mauvais, vous êtes méchant. Autant la violence d'effraction, disons, des militants d'L214 qui pénètrent dans des abattoirs et qui ensuite se font lanceurs d'alerte en nous disant ce qui s'y passe vraiment, c'est ce qu'on peut appeler une violence pédagogique. C'est-à-dire qu'on nous met en face de ce que c'est qu'aujourd'hui manger de la viande, on nous met en face d'un certain circuit alimentaire en disant on peut faire mieux, etc. Mmh. etc. Et donc ça fait toute la différence parce que en effet c'est une forme de violence, ils sont passés en tribunal, hein, il y a eu des suites judiciaires, mais les suites pédagogiques et sociétales, si vous voulez, ont été colossales. On n'a jamais autant parlé du problème animal que depuis 2 ans, grâce à eux.
Alors, L214, qui par ailleurs a condamné ces formes de violence, mais justement, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une autre ère, en fait ? Il y a eu l'ère numéro 1, celle de L214 qui montre, effectivement, et puis maintenant, on est dans la phase 2, celle qui, après avoir montré, éprouve le besoin de démontrer différemment, et peut-être avec donc la violence qu'on a pu voir cet été et d'autres jours.
Alors, le terme attentat me semble quand même un peu déplacé, parce qu'il y a eu des graffitis sur des vitrines. Bon, ce qui quand même me semble certes une violence, mais enfin tout à fait mineure. Il n'y a pas eu d'attaque contre les personnes.
On est d'accord, on est bien
d'accord.
Donc
je pense que c'est important quand même de dire que... Alors peut-être que cette démarche n'est pas très payante, très pédagogique, comme Étienne vient de le dire. Mais enfin, je crois qu'il ne faut quand même pas utiliser des termes qui ne sont pas appropriés.
Alors, il se trouve qu'elle s'est révélée contre-productive, on est d'accord là-dessus.
Oui, elle est probablement contre-productive, bien sûr, parce que ça ne fait pas réfléchir. Voilà, ça ne fait pas réfléchir.
Qu'est-ce qu'on peut dire à Val pour terminer sur sa question et retourner au standard sur parce qu'on entend ce discours aussi sur les végétaux, Florence Burga.
Malheureusement, on entend ce discours sur les végétaux. Il se trouve que je me mets à travailler sur cette question et qu'il y a de vraies raisons scientifiques, philosophiques, morales de poser une distinction radicale entre le monde,
entre le vivant,
du vivant animal et humain d'un côté, et le vivant végétal de l'autre, qui est extrêmement complexe dans ses dans ses communications, mais c'est un système stimulus-réponse très compliqué. Et voilà, il y a aujourd'hui, je sais, un engouement pour ces descriptions anthropomorphiques de la vie végétale, mais je crois qu'il faut vraiment s'en garder.
Je pense qu'il y a un marqueur quand même qu'il faut garder en tête, c'est la sentience, la sensibilité. C'est très difficile d'aller parler d'une sensibilité des arbres ou des plantes. Alors évidemment, je sais que certains diront le contraire, mais je pense que là, on a un marqueur. Il faut maintenir ça, parce que ce marqueur, il est essentiel à la cause animale, précisément.
Bien sûr.
Et si on commence à le diluer du côté des arbres, je pense que d'une certaine manière, on va perdre du côté des animaux.
Et le côté moquerie dont parlait Val, finalement, risque de se retourner à nouveau si certains en font trop, non ? Probablement, en incluant les animaux, les végétaux, etc.
Alors là, ce qui est curieux dans son attitude, c'est qu'elle exclut les animaux, parce que manger les animaux avec respect, si vous voulez, je pense que pour les animaux, ça change rien, la façon dont on les mange. Voilà.
Justement, sur ce qui change ou pas, bonsoir Yannick.
Bonsoir France Inter.
Soyez le bienvenu Yannick dans le téléphone sonne, on vous écoute.
En quoi les végans ou le mouvement vegan pourrait-il avoir la prétention de bouleverser la chaîne alimentaire ?
Alors voilà une question vaste et compliquée. Qui veut commencer à répondre, Florence Burga ?
Oui, alors... Je pense qu'inscrire notre alimentation dans la chaîne alimentaire est un peu problématique, précisément parce que nous occupons, pas seulement nous, il y a aussi d'autres animaux qui sont omnivores, donc nous occupons une position très particulière dans la chaîne alimentaire. Et on sait de très longue date, parce que l'humanité a expérimenté des tas de régimes et puis qu'aujourd'hui la physiologie, la nutrition nous permet de le savoir de façon très précise, nous sommes des omnivores et donc nous savons d'expérience que nous n'avons pas besoin de manger de chair animale. En revanche, on peut s'interroger sur la question de savoir comment, dans un monde vegan, nous devrions nourrir les carnivores domestiques, par exemple, qui ont une physiologie à propos de laquelle il semble plus compliqué d'éviter les produits carnés. Donc l'homme occupe dans la chaîne alimentaire une position qui, précisément, lui donne la liberté de choisir son alimentation.
Mais ça va même plus loin, puisque certains considèrent que pose la question de savoir si l'animal peut être domestique aussi. Enfin, vous partez du principe qu'il faut voir comment on nourrit le carnivore domestique.
Enfin, ça serait
d'autres
une question.
Même vont encore plus loin en disant, oui, mais il ne peut plus y avoir de domestiques, de toute façon, d'animaux domestiques.
Oui, on peut poser cette question. Bien sûr, c'est un autre débat, mais bien sûr, on peut entrer dans cette discussion aussi.
Étienne Binbenet, est-ce qu'on bouleverse la chaîne alimentaire ? Si l'humanité devenait végane demain, est-ce qu'on bouleversera intégralement la chaîne alimentaire mondiale ?
Je pense qu'on ne peut plus parler de chaîne alimentaire depuis belle lurette. Je pense qu'on l'a considérablement modifiée, on l'a artificialisée, on a fait ce qu'on veut en quelque sorte de cette pauvre nature, si je puis dire. Et le jour où on se mettra à manger moins de viande ou plus de viande du tout, les équilibres se rebouleverseront et on rebattra les cartes. Et en effet, il se posera par exemple la question des espèces domestiques, qui sont des espèces créées par l'homme ou en symbiose avec l'homme.
Oui, mais si elles ont été domestiquées, pardon, c'est pour les manger, non ? Au bout du compte, pour qu'elles travaillent et aussi pour les manger. Donc à un moment, est-ce qu'on en a besoin, y compris de ces espèces-là, si on pousse ce raisonnement jusqu'au bout ? Est-ce qu'on a besoin d'espèces domestiques si on ne consomme plus de viande ?
Là, il y a un grand débat entre ce qu'on appelle les abolitionnistes, qui disent il faut en finir avec toute forme d'élevage et donc avec les animaux de rente, qui sont des animaux domestiques, c'est-à-dire transformés biologiquement pour en effet produire de la viande, du lait, etc., et pour vivre avec l'homme. Et ceux qui disent, au contraire, ils sont faits pour l'homme, donc on ne peut pas les laisser, comme s'il y avait une forme de finalité. Et là, je pense qu'il y a un argument un peu spécieux, ils ne sont pas faits pour l'homme, il se trouve qu'il y a eu une histoire de symbiose, mais qui peut largement se défaire, alors qu'il peut en effet... On peut imaginer une phase de latence intermédiaire dans laquelle on ne saura pas trop quoi faire des vaches et des moutons. Mais je pense que c'est un faux argument de dire ils sont faits pour l'homme et ils doivent le rester. Je pense qu'on peut largement rebattre les cartes pour le bien-être animal. Qu'en effet, la question des animaux domestiques se posera, parce qu'en effet, on ne peut pas les lâcher dans la nature, ça c'est vrai, mais ça n'est pas un argument. On ne peut pas dire oui, mais non, ils sont faits pour l'homme, donc ils doivent rester à l'homme. Ça, c'est faux. Je crois que c'est totalement faux. Ce sera une évolution, ça aura lieu, on ne sait pas encore comment, mais il faudra en faire quelque chose.
Alors voilà, j'allais vous poser la question. Ce sera une évolution, ça aura lieu, parce qu'on en discute, et aussi pour le bien de la discussion d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut imaginer, effectivement, qu'on cesse de manger de la viande vraiment à terme, un jour, Florence Burga. Est-ce qu'on peut imaginer que, j'en sais rien, 50, 100 ans, on s'achemine vers là ? Et oui, on va s'arrêter un jour.
Moi, je pense qu'on peut tout à fait l'imaginer. Alors, pas au sens où l'humanité aurait un sursaut moral et déciderait de ne plus tuer les animaux. Mais parce que, effectivement, nous évoluons, notre alimentation évolue. Ces animaux domestiques, en fait, ils sont enfermés dans des bâtiments. Nous ne les voyons plus. Il n'y a que très peu d'animaux qui sont élevés à l'extérieur. Donc, le lien est rompu depuis très longtemps. Ce sont dans des villes que nous allons tous habiter. Nous ne serons plus là, mais voilà, que la population va habiter. Donc, les choses sont complètement en train de changer. Ces animaux d'élevage ne naissent que parce que nous les faisons naître par insémination artificielle. Il y a effectivement certaines races qui ne peuvent pas s'adapter à la vie sauvage. Donc on peut tout à fait imaginer que ces animaux disparaissent sans même qu'on s'en aperçoive et que certains d'entre eux soient comme aujourd'hui les chevaux ou les ânes chez des particuliers. Et je crois que notre monde est en train en effet de se vider des animaux sauvages et de ces animaux-là parce que nous l'avons voulu comme cela.
Étienne Mamenet, vous pensez qu'un jour on ne mangera plus de viande, vous ? Est-ce que vous voyez ça dans un horizon même très lointain ?
Même très lointain, je n'imagine pas une humanité hors sol, comme on dit, c'est-à-dire qui aurait perdu ce lien, ce cordon ombilical et ce lien charnel avec ces animaux d'élevage. Il y a un lien très profond, un lien symbolique, un lien alimentaire qui passe par toute une culture de l'alimentation carnée, que Florence Burga d'ailleurs a étudié récemment. Et je n'imagine pas qu'on aille vers cette humanité totalement neutralisée dans son rapport à l'animalité, à la viande sanguine et à cette origine animale qui participe de notre humanité. Alors je dis pas qu'il faut rester des viandards, comme on dit, des carnivores au sens le plus barbare du terme. Je pense que les choses vont évoluer, mais moi j'imagine un peu ce qu'imagine Lévi-Strauss dans un très bel article qui s'appelle la leçon de sagesse des vaches folles. J'encourage les auditeurs à lire cet article de Lévi-Strauss suite à la crise de la vache folle. C'est un magnifique article où il dit peut-être un jour, on peut imaginer que la viande, parce qu'on aura évolué, que les sensibilités auront évolué, sera devenue quelque chose comme un produit de luxe et on la goûtera avec autant de révérence que les Japonais mangent leur fameux poisson qui peut tuer par son poison. Et ce sera un plat de luxe. Alors peut-être qu'un jour, voilà, on aura cette relation-là à la viande.
Mais il dit dans cet article qu'il n'y aura plus d'élevage et que ce sera quelques animaux retournés à l'état sauvage qui seront chassés. Donc ça sera quelque chose de complètement exceptionnel et c'est quand même ce qu'on peut appeler la fin de l'humanité carnivore.
Et ben vous voyez, ça répond à la question, plus ou moins à la question de Christine sur franceinter.fr qui dit « Je mange très peu de viande, une fois par mois à peu près, mais que vont devenir les veaux, les vaches, les moutons, les poulets si l'on n'en mange plus, si l'on n'en élève plus ? Est-ce que ce sont finalement toutes des espèces vouées à disparaître ?» Alors on a bien compris que certaines effectivement allaient disparaître, mais les plus familières, celles qui nous sont les plus familières, effectivement les vaches, les moutons, est-ce qu'à terme ça disparaît ça ou pas ?
Je pense que la question est-ce que nous sommes capables d'inventer une autre relation avec ces animaux-là. Et je vois bien que cette question est celle sur laquelle on bute, comme si on ne pouvait pas imaginer d'autres relations, d'autres usages des animaux que celui de la boucherie. Donc, on pourrait imaginer d'autres usages, mais encore faudrait-il...
Parce qu'aujourd'hui, on est... À quoi tu me sers si je ne te nourris pas pour te manger, en fait ? On en est là pour l'instant dans notre
raison. On n'arrive pas à penser qu'on pourrait, je ne sais pas, à la campagne, avoir des moutons pour avoir des moutons qui peut-être tondent la pelouse. Après tout, les chiens et les chats, nous ne les mangeons pas et nous avons plaisir à vivre avec eux. Donc je crois que c'est aussi un manque d'imagination, d'imaginer un monde dans lequel, mais bien sûr, ces animaux sont là massivement pour des utilisations. C'est notre rapport le plus commun avec les animaux. Donc il y a vraiment...
Je pense qu'il y a un juste milieu entre cette solution d'animaux domestiques rendus à une forme de liberté, comme ça, un peu esthétisante, où ils seraient là comme... Pour le spectacle ou pour nous faire rêver autant jadis, bon. Et l'élevage industriel d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a quand même le fait de s'inspirer quand même de la ferme et d'un élevage beaucoup plus humain en quelque sorte dans son rapport à l'animal, d'un élevage ancestral dans ses usages de l'animal.
À condition de ne presque plus manger de viande, puisque nous sommes 7 milliards à vouloir en manger.
Oui, mais imaginons des vaches laitières qui produisent leur lait toute leur vie, et puis à un moment, on les met à mort parce qu'elles sont vieilles, et ça produit de la viande, alors évidemment de manière beaucoup moins intensive que dans des élevages, mais à ce moment-là, c'est en effet un produit de luxe. Elle a eu sa vie, elle a eu une belle vie, elle a eu une vie...
Alors une belle vie, non, parce qu'elle fait des veaux constamment et on lui tue ses veaux et on la réinsémine, c'est ça la vache laitière.
Mais pas forcément, oui, mais c'est précisément le genre de choses qu'on peut réformer.
Oui, mais il n'y aura presque plus de lait. Enfin voilà, il faut savoir que...
Il y aura moins de lait,
ça peut être effectivement une phase de transition, peut-être une phase qui sera... la phase définitive quand nous serons 10 milliards.
Eh ben écoutez, la parole aux éleveurs du coup, qui sont les premiers concernés. Frédéric, ça fait 28 minutes que vous attendez. Pardon, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Effectivement, nous on pratique l'élevage en respectant beaucoup nos animaux. Pour donner une illustration, ma femme avec qui on élève une cinquantaine de vaches parle beaucoup aux vaches avant qu'elles partent à l'abattoir pour leur expliquer. Ensuite, il nous arrive d'en manger. Et c'est un hommage qu'on a l'impression de leur rendre. Enfin voilà. Moi, je trouve que les antispécistes posent des très très bonnes questions, que la dénonciation qu'ils ont de l'élevage est très très juste, mais je pense que la réponse végane est radicale, trop radicale, et j'ai peur que le monde qu'ils nous préparent, j'ai entendu un petit peu Madame Burga, je crois, nous décrire un monde sans élevage, et ça me fait froid dans le dos, j'ai peur que ce soit bien pire en termes de souffrance animale, notamment des animaux sauvages, que ce qui pourrait exister avec un élevage respectueux. Et en fait, nous, on est regroupés, par exemple, dans un réseau qui s'appelle le réseau des paysans de nature. D'ailleurs, on sort un bouquin demain, là, pour la fête de la vache nantaise. Voilà, il existe aussi ce type d'éleveur-là. Et effectivement, ça veut peut-être dire moins de viande, mais je crois que l'abolition de l'élevage est pire d'un point de vue de la souffrance animale et de la souffrance des humains qu'un élevage respectueux.
Mais pourquoi au niveau de la souffrance, en fait? Parce que ce qui peut se passer dans la chaîne alimentaire, dans la question précédente, etc., je comprends ça, Frédéric, mais en termes de souffrance animale, moins d'élevage, je comprends moins, en fait, où vous m'emmenez.
Ce que je veux dire, c'est qu'un modèle de société dans lequel, hors sol, dont parlait Madame Burga tout à l'heure, j'ai peur que, par exemple, provoque plus de réchauffement climatique et plus de mortalité, par exemple, de poussins d'hirondelles dans les nids, et ça, c'est beaucoup de souffrance animale.
D'accord. Merci beaucoup, Frédéric, pour votre question, pour votre remarque aussi, Florence Burga. C'est pour vous, cette question.
Oui, mais je ne comprends pas en quoi le fait qu'il n'y ait pas d'élevage va créer de la souffrance chez les animaux sauvages. Enfin, voilà, en ce moment, on sait que les animaux sauvages sont très, très atteints. Leur population diminue, sont très atteints par les pesticides utilisés en agriculture pour nourrir les animaux d'élevage, hein. Enfin, moi, c'est mon milieu familial, hein, donc je connais bien tout ça. Donc, je ne vois pas en quoi il y aurait de la souffrance humaine, animale, et en particulier des animaux sauvages. Je n'ai pas bien saisi.
Étienne Mamonet, vous voyez, vous, toujours dans le même ordre d'idée de ce que disait Frédéric, qui est en train de nous expliquer que lui ne fait pas son métier comme un bourrin qui tue les animaux n'importe comment, c'est ça en creux qu'il est en train de nous dire. Et que donc la fin de l'élevage, finalement, est-ce bien nécessaire? Est-ce que c'est bien utile? On peut faire différemment.
Et oui, on peut faire différemment. Et je suis bien content d'entendre Frédéric dans sa douceur et sa manière de parler des animaux, parce qu'on voit bien qu'on n'a pas le choix, ou l'alternative n'est pas aussi brutale qu'entre l'élevage industriel intensif et le fait de ne plus consommer du tout de viande. Il y a en effet déjà cette étape-là, qui est une étape magnifique, qui consiste à revenir à une certaine forme de bon sens dans l'élevage des animaux, c'est-à-dire de revenir à une forme de douceur, et je vois bien le type de, comment dire, de réalisme auquel on peut revenir dans ce type de pratique. C'est-à-dire que on est très loin des animaux en élevage industriel. On les imagine de manière très coupable comme des victimes, et c'est vrai que c'est affreux ce qui arrive là-bas, mais c'est au fond une forme de culpabilité très irréelle ou très irréalisante. On imagine des choses horribles, on voit des choses sur Internet. Je pense qu'on est très loin du travail au jour le jour qu'un éleveur peut avoir avec ses vaches, ses cochons. C'est quelque chose de très important. Il les nomme, il leur parle.
Est-ce qu'on sait si ça change quelque chose, sincèrement? Je pose vraiment la question très sérieusement.
Il va jusqu'à la mise à mort, et je pense que c'est très important. C'est-à-dire que le principe de réalité passe par la mise à mort, évidemment. Alors évidemment, c'est quelque chose qui fait bondir les véganes. Ouais. Mais il faut voir ça en face. On mange de la viande, il est important qu'on voit en face le fait que nous allons jusqu'à la mise à mort. Il faut voir ça en face. Une des particularités, un des avantages du combat antispéciste, c'est de nous mettre en face de la mise à mort. Bon, c'est vrai. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il me semble que précisément, les éleveurs, comme Frédéric, ont une leçon de sagesse à nous donner sur cette façon d'élever jusqu'à la mise à mort, c'est-à-dire d'élever les yeux ouverts, en toute lucidité, et en même temps, de manière très humaine. Et ça me semble très important.
Est-ce qu'on sait, c'est une question très sérieuse, si en parlant à l'animal avant, en y allant avec plus de douceur que dans des abattoirs où ils sont tous tués à la chaîne, la mort est plus douce et plus simple, moins traumatisante pour l'animal. Est-ce qu'on le sait, ça ou pas, Florence Burga?
Il me semble que là, il y a plusieurs choses qui sont dites. Premièrement, il faut quand même souligner que Frédéric fait partie d'un pourcentage absolument minime d'éleveurs. Voilà, je pense que s'il y en a peut-être 50 comme lui en France, hein, c'est tout.
Mais quand je vous entends, j'entends aussi que peut-être à terme, il n'y aura que des éleveurs comme Frédéric, au fond,
mais
en fait.
C'est ce qu'on peut penser. C'est ce qu'on peut penser, que le métier deviendra complètement artisanal si l'élevage industriel disparaît et qu'il y aura peut-être que des gens comme Frédéric. En même temps, je le plains de faire ce métier, c'est-à-dire d'aimer ces animaux et de les envoyer à l'abattoir. Ma grand-mère avait repris l'exploitation de mon grand-père d'élevage de charolais.
Mais c'est parce qu'il sait pourquoi il les élève.
Elle a fini par arrêter à cause de ça. Mmh. Voilà, parce que c'était devenu insupportable. Et pourtant, dans le milieu familial, c'était le métier, si vous voulez. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus nous bercer d'illusions et dire qu'en parlant doucement aux animaux, eh bien, ce qui va se passer à l'abattoir disparaît. D'ailleurs, il ne sait pas, peut-être, ce qui se passe à l'abattoir.
L'animal,
puis,
vous voulez
dire non, Frédéric.
Ah, Frédéric.
Et puis, ça n'est pas rien pour un animal de mourir. Ça n'est pas rien, il perd tout. C'est comme si nous mourons, nous perdons tout. Donc voilà pourquoi les tue-t-on, pour le plaisir de manger de la viande. Et c'est aussi là-dessus que l'attention est attirée, sur la disproportion qu'il y a entre la perte pour l'animal et puis le plaisir qu'on peut en retirer. L'argument est bien connu.
Allez, un autre boucher sur l'antenne de France Inter, il s'appelle Cédric. Bonsoir Cédric.
Bonsoir.
Et bienvenue Cédric, allez-y.
Bon, ben, moi en fait j'ai subi une attaque d'antispécisme, en fait. Donc je voulais dire qu'en gros, ça servait pas à grand-chose qu'on attaque les bouchers pour faire ce genre d'action. Même si je suis contre les corridas, je suis contre l'élevage intensif et tout ça, en fait. Parce que en fait, nous, ça nous a plus fait travailler qu'autre chose, ça nous a plus fait une publicité qu'autre chose. Donc je pense que leur action comme ça, c'est pas la peine, en fait.
Mais voilà, vous avez plus vendu après avoir été attaqué, je suis un peu étonné quand même.
Oui, on a plus vendu après avoir été attaqué parce que les gens sont solidaires, curieux. On a plus vendu de viande après. Et justement, il y a des gens, moi j'ai rien contre, hein. Les gens ils sont véganes, ils sont véganes, ils sont carnivores, chacun est libre de penser, de manger ce qu'il veut. Mais là, en fait, ça a fait l'effet inverse.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Cédric. Etienne Mamenet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, simplement sur le côté peut-être non productif, en fait, de ce genre d'action de la part de ces groupes-là.
Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a boucherie et boucherie. C'est-à-dire qu'ils ne s'en prennent pas à des supermarchés, par exemple. On peut imaginer la qualité de la viande sous plastique qui n'est pas celle, justement, d'un boucher artisanal. Donc, c'est vraiment se tromper, je trouve, d'abord d'interlocuteur. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que c'est contre-productif parce que c'est accusatoire. Je pense que les gens se sentent heurtés dans des usages. C'est presque ce qu'on appelle en philosophie une erreur de catégorie. On a l'impression tout d'un coup une espèce de moralisation très violente d'usage pérenne, là où il faudrait beaucoup plus de pédagogie, il faudrait expliquer, il faut faire évoluer les sensibilités, il faut faire preuve ou il faut inciter une forme d'imagination empathique à l'égard des animaux, essayer de vous mettre à la place d'un cochon en élevage industriel, essayer de vous imaginer dans la peau ou dans le corps d'un poulet en batterie, etc. Enfin, tout ça, c'est très important. C'est exactement ce qui va contre une forme de divertissement. C'est-à-dire qu'on se détourne, on sait sans vouloir savoir, on sait sans savoir, on ne veut pas savoir, on oublie. C'est tout notre problème du rapport à l'élevage industriel. Et donc, on a besoin de pédagogie, je pense.
Je vais poser une question naïve. Est-ce qu'on peut être vegan sans être antispéciste? C'est-à-dire ne pas aller jusqu'à une espèce de discours d'égalité, en fait, entre l'homme et l'animal. Est-ce que c'est compatible ou pas, en fait, Florence Burga?
Alors moi, je pense que c'est tout à fait compatible. Voilà, l'antispécisme et le spécisme, ce ne sont pas des concepts que j'utilise parce que ça n'est pas ma culture philosophique. Etienne Bamenet et moi avons à peu près la même culture philosophique, qui n'est pas cette philosophie analytique contemporaine américaine, hein, qui a porté ces notions en avant. Et je pense qu'on peut tout à fait maintenir des spécificités. Alors, ce qui me distinguerait peut-être du discours d'Étienne, c'est que je pense qu'il y a des propres de l'homme, mais aussi des propres de chaque espèce animale. Voilà, qu'il y a chaque espèce a ses propres. Et je n'emploie par exemple jamais le terme d'animal humain. Et je pense donc qu'on peut tout à fait penser que les animaux ont leurs spécificités, ne pas en faire des humains, et en général, ceux qui défendent cette thèse en font des presque humains parce qu'ils ne leur reconnaissent jamais les mêmes dispositions cognitives, bien évidemment. Donc je pense qu'on peut tout à fait être végane et antispéciste au sens où je viens de le dire, évidemment.
Bonsoir Anne-Christine.
Oui, bonsoir France Inter.
Vous nous appelez de Corse, vous avez de la chance, on vous écoute, allez-y.
n'est-ce pas? Oui, j'ai beaucoup de chance. Bon, voilà, mais seulement, je vais vous dire tout de suite, je ne mange plus de viande depuis quelques années. C'est vrai que depuis que je suis en Corse, j'entends les chasseurs et bon, et ça me meurtrit chaque fois que j'entends les coups de fusil. Mais bon, je sais que certaines personnes ont besoin de manger de la viande, donc je me contiens. Mais je me trouve face à un dilemme pas possible. Je réfléchis. Il me semble qu'il y a de plus en plus d'animaux de compagnie, chiens et chats. Or, ce sont des carnivores. Moi, j'ai une chienne à la maison. Je n'ai plus de chat parce que je ne supporte pas de les voir chasser les oiseaux ou les chats, ça me rend malade. Enfin, je suis peut-être ridicule, mais c'est comme ça. Mais je me trouve particulièrement hypocrite parce que j'achète des croquettes pour le chien. Donc je vois, c'est noté au poulet, je les prends recommandées par le vétérinaire, donc il me semble peut-être que ça provient d'un élevage un peu mieux, mais je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas ce qu'est ce poulet, ce qu'il a vécu avant. Enfin, et je me trouve particulièrement hypocrite. Je ne sais pas comment font les autres personnes qui ont des animaux de compagnie, chiens ou chats. Hormis le fait de pas soi-même manger de viande pour essayer de compenser, mais je trouve que c'est particulièrement, c'est un dilemme et je me trouve hypocrite.
Et cela dit, vous nourrissez quand même votre chien dont vous savez qu'il est carnivore avec de la viande.
Mais moi je peux pas vivre sans chien, c'est simple.
Et Anne-Christine, elle est bonne votre question. Vous y avez partiellement répondu tout à l'heure d'ailleurs, Florence Burga. Effectivement, le chien est un animal carnivore. On peut le tourner dans tous les sens. On peut pas nourrir un chien qu'avec des légumes, si?
Alors c'est une grande discussion. Alors je crois qu'on peut nourrir un chien de façon végétarienne, j'ai pas dit végane, assez facilement. Je crois que l'enseignement vétérinaire ne s'est jamais penché sur le problème de la nutrition des carnivores parce que ces discussions sont tout à fait récentes. Alors il existe dans les magasins véganes de la nourriture végane pour chiens et pour chats qui ont été préparés par des vétérinaires avec des compléments, la taurine, etc. Je pense que nous sommes dans une phase un peu de transition et que probablement on saura fabriquer des substituts pour les carnivores domestiques, les chiens et les chats. Mais je comprends qu'on hésite aujourd'hui à nourrir des carnivores de façon végane, encore que je connais des gens qui...
En même temps, si on pousse le raisonnement antispéciste jusqu'au bout, pardon, mais le chien, il n'a rien demandé. Enfin, je veux dire, il n'a pas demandé à être végane. Enfin, je le dis sans aucune provocation, mais enfin, quand même, un peu aussi.
Si la nourriture qu'on lui donne, il l'aime, surtout que le chien a une palette de goûts extrêmement large. C'est plutôt pour le chat que c'est plus compliqué.
Tiens, il y a cette question intéressante qui nous vient de franceinter.fr. Si des idées véganes triomphaient, qu'est-ce qu'on va faire des cultures qui sont uniquement basées sur l'élevage et la chasse, comme certaines tribus en Laponie, comme les Inuits, comme les Maasai, etc. Est-ce qu'on devra les déclarer immoraux, les mettre d'une certaine façon au banc de l'humanité? Étienne Bimbonnet, ces cultures basées sur la chasse...
C'est là qu'on touche à une certaine limite d'une forme d'extrémisme végane. Je dis pas que la pensée végane se cantonne dans cet extrémisme. Il y a une tendance possible à vouloir tout réformer, à la fois de notre passé, y compris de la nature, on le voit dans la question d'Anne-Christine, hein, faire que les chiens eux-mêmes ne soient plus carnivores, comme s'il fallait tout réformer d'un point de vue moral. Il y a des usages...
Autres, mais du coup, est-ce que ça dit pas en creux, c'est vraiment une histoire qui est souvent citadine, très occidentale en tout cas. Est-ce qu'on parle vraiment de véganisme dans ces coins d'Afrique-là ou ailleurs, réellement?
Alors, dans ces coins d'Afrique-là, précisément, je ne sais pas, mais ce mouvement est quand même mondial. Et je pense que la pensée végane, elle va vraiment dans le développement, enfin l'évolution de l'humanité qui cherche effectivement à moraliser les relations. Qu'est-ce que fait le droit, sinon aller à l'encontre de nos, comme le dit Freud dans Malaise dans la civilisation, contre nos pulsions les plus profondes. Quand Freud dit cette phrase « Aime ton prochain comme toi-même » est la phrase la plus folle qu'on ait pu écrire. Parce que précisément, ça n'est pas notre disposition. Donc je crois que la pensée végane s'inscrit vraiment dans ce mouvement qui voudrait essayer de mettre un terme à la violence à l'intérieur des sociétés.
Un débat qu'on n'a pas fini d'avoir, effectivement, mais qui reste toujours passionnant à chaque fois, parce que ça soulève aussi des tas de questions sur comment on se comportera après, comment nos enfants, comment d'autres, les générations d'après, mangeront, se nourriront, quel rapport aux hommes et aux bêtes. Merci à tous d'avoir participé au Téléphone Sonne. Plein d'appels encore, portez-vous bien, il est 20h.